France Inter.
Club. Go. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans Côté Club. Vous connaissez l'adresse, studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques. 22h, 23h chaque jour. C'est le rendez-vous de toute la scène française et plus ses affinités. Ce soir, en direct, la vie est bien faite et on vit une époque formidable avec nos deux invités, Samir Hamad et Cynique. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Samir Hamad, pour vous, c'est un nouvel album. La vie est bien faite, c'est le titre. On y retrouve une culture américaine, son cinéma, ses musiques, pas seulement en rap. Un album autoportrait. Je suis Baudelaire en sportwear, je vieillis comme un jeune bluesman, alors même que vous êtes dans la quarantaine avec 22 ans de discographie. À vos côtés, encore plus fort, 26 ans de carrière, plus d'un million d'albums vendus. Aujourd'hui, un business dans le tatouage. C'est Cynique qui revient sur son parcours sans détour dans Une époque formidable. Le récit d'une vie, jeunesse violente, prison, le rap, un immense succès qui arrive. Et le reste, à découvrir dans quelques instants, parcours d'un enfant du siècle. Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles.
Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter.
Et on ouvre sur une collaboration rap, une vraie collaboration, pas un feat sur un ou deux titres, non, après Tiakola et Gazo, après Zola et Kobalade, c'est au tour de H. John Crack et Maïro de signer un EP commun, La Solution, extrait Fast Learner sur France Inter.
Ok, ils l'ont fait rapide, c'est pas mal. Si c'est pas de Maïro, c'est pas la peine. Sans les fiches de paix au fiche, m'en la paix. Dis directement le chiffre dans l'appel. Mon pleura se rapproche de la frontière. Et mon phrasier se rapproche de la fontaine. Bateau plein d'or comme si j'étais un roi mage. Que mon plumage se rapporte à mon ramage. M.A.I.R, je sais pas, t'as cru quoi? Pour le faire, il suffit pas d'une fois. Des fois, c'est noir, on dirait le ciel me tombe dessus. Le sort s'abat sur moi. J'ai mis mon cœur dans la machine. J'ai beau attendre, mais il ressort sale. J'ai grave grandi en vrai depuis, mais ça bouge pas comme une épine dorsale.
Ceux qui savent, savent, tu sais déjà si t'es un fast learner. Repas d'affaires dans un restaurant, passe le sel et puis passe le beurre. Repas de famille débat sur les banques, j'suis le grand frère, j'assure l'exemple, j'vide le sang en serre. J'kiffe les films de gangsters, mais j'bande pas sur les gangs. Y'a que les idiots qui doutent pas, les bars j'les dis tout haut, j'y réfléchis tout bas. J'reçois un coup de fil, j'ai déjà un coup de barre. J'réponds, j'dis j'écoute, alors que j'écoute pas. On fait comme ça, vas-y hein. Les humains j'les comprends pas, j'suis pas bilingue. J'te parle de ce que j'connais, si j'étais mécano, j'te parlerais de 4 anneaux et de 4 cylindres.
Ça m'est pas tombé dessus, ça m'est pas tombé dessus, j'ai pas trafiqué ma place. La base est l'acide, l'acide est la base. Fais-le goûter l'autre côté si t'es là-bas. En ce moment, mon ex, elle me manque même en cabine. Des amis, y'en a moins qu'avant. Avant, on traînait dans tous les coins de la ville. La vérité blesse, les soins ça pique. Que les diablesses restent loin de ma bille. Il faut la sagesse comme un papy. J'pique comme une abeille, j'vole comme un papillon.
J'ai le rap et le foot comme quand j'étais minot. J'regarde les nuages, on dirait des tifos. Sur le terrain, comme si j'étais Lino. Focalise avant de monter sur scène. Corde à sauter avant de mettre les gants. J'dois me faire enlever les dents de sagesse. J'marque des pauses, comme ça je laisse chanter les anges. J'ai un gros cerveau, je me sens très à l'étroit. Je parle pas trop, je préfère faire parler de moi.
On danse pas mais on fait les moves. On danse pas mais on fait les moves. Tous ceux qui dorment sur moi, je prends leur coussin, je les étouffe. Ils nous prennent pour qui c'est des ouf. On danse pas mais on fait les moves.
À Jeune Crack et Maïro en collaboration, Cynique, vous deviez faire une collaboration avec Diams. Et ce n'est pas un poisson d'avril.
Non, c'est vrai, on en parle. J'en parle d'ailleurs dans le livre. J'explique pourquoi ça ne s'est pas fait. Mais effectivement, c'est vrai qu'on en parlait là hors antenne. Et ce genre de collaboration-là...
C'est gagnant-gagnant.
C'est gagnant-gagnant parce que déjà, vous allez vous confronter à un autre public, vous partagez un peu les publics. C'est en termes de quantité, c'est des albums qui sont assez rapides à faire puisque vous avez forcément moins de...
La moitié à écrire,
voilà, on est des artistes solo, donc on a l'habitude d'écrire à l'époque nos trois couplets. Aujourd'hui il y en a moins, mais à l'époque nos trois couplets. Donc ça va plus vite, ça mélange les publics, ça permet d'avoir un album très rapidement, de faire des belles tournées. Et puis c'est cool, mais ça existe déjà depuis pas mal d'années.
Pourquoi Diabs, ça ne s'est pas fait?
Parce qu'à l'époque, en fait, son producteur et enfin son équipe était pas forcément d'accord avec ce projet-là. Elle était en pleine ascension. Elle avait un peu cassé cette barrière rap de rue, etc. Elle était vraiment très très grand public. Et je pense, après ça, c'est mon avis, on s'en est jamais vraiment parlé, mais je pense que son équipe était d'accord, mais son équipe était pas spécialement d'accord avec le fait de revenir en arrière. Moi, j'étais très étiqueté banlieue, rap assez dur, etc. Donc je pense que c'était plus par rapport à l'image et au tournant musical qu'ils avaient réussi à donner à sa carrière, et je pense que c'est pour ça que ça s'est pas fait.
Samir Ahmad et Cynic sont nos invités côté club ce soir, à peu près la même génération. Vous sortez vos premiers sons rap au début des années 2000, mais chacun avec un parcours différent. Les Ulysses pour Cynic, la Normandie pour Samir. Avant cela, il y a eu l'Irak, beaucoup plus jeune, puis ensuite l'Algérie. Vous êtes réunis ce soir, vous Samir, avec un nouvel album, vous Cynic avec un récit autobiographique. Pour autant, vous connaissez-vous ? Eh oui.
On s'est connus, ouais, on s'est connus, ce qu'on disait avec Cynic, il y a 25 ans maintenant, hein, c'est ça à peu
c'est
près.
C'est ça.
Oui, 25 ans, 24 ans, 25 ans. Furtivement, on va dire, mais bon, moi, j'étais pas encore, j'étais auditeur en fait, et c'était dans la ville de Montpellier, hein, où j'étais installé depuis 2-3 ans seulement.
Vous vivez toujours à Montpellier ?
Ouais, voilà. Je me suis installé complètement sur Montpellier, et Cynic était venu pour faire de la musique avec un beatmaker de Montpellier.
C'est ça.
Et bah moi, j'étais dans le giron de quelques rappeurs qui étaient sur Montpellier. Donc voilà, j'ai dans la petite scène. C'était en plus en 2000, le rap, c'était pas comme maintenant, si vous voulez.
Mais surtout à Montpellier, hein, il y avait
surtout
vraiment pas une grande
voilà.
scène.
Donc déjà à Paris, c'était même pas non plus ouf. C'était pas énorme comme maintenant. Montpellier encore moins. Donc forcément, quand il y avait des gens qui rappaient, on se voyait tous un petit peu. Donc même des gars de Paris, de Marseille qui venaient, évidemment, on se rencontrait. Donc quand Cynic est arrivé, évidemment, on se rencontre.
C'était imaginé.
Il y avait une radio ou deux, il y avait deux trois studios. Évidemment, on se voit quoi. Et on avait fait un. J'avais été invité sur un morceau, etc. Et on avait fait une première collab. Enfin, c'était la première fois. Je crois même que moi, je rentrais en studio. C'était la première fois que j'écrivais, et c'était en partageant un morceau avec Cynic. C'est ça l'anecdote quoi.
C'est ça. Non, là, c'est exactement ça. C'est ça. Au départ, je vous avoue que on s'est un peu rafraîchi la mémoire.
Ouais, oui,
ça,
oui, je sais.
Dans les loges,
dans
parce
les
que
loges,
ça,
oui.
ça datait.
Mais
sur
qui
le coup,
êtes-vous
ça
exactement.
Un quart
de
ça
siècle.
Ça ne revenait pas, mais c'est
un
vrai
quart
que ça
de siècle.
Mais on fait des belles rencontres dans la
une
musique.
Une heure pour reconduire le rendez-vous. Alors, je disais que vous aviez commencé à la même période. Disons que vous avez été repérés chacun au début des années 2000. Avec ce son, ce flow qui a tout fait exploser Cynic, on est le 7 juin 2003.
Moi j'y suis, je te vois pas, t'es où? Ok, y'a un peu chaud pour te faire un mec choc. T'es mouillé comme une chatte et tes lyrics sont l'odeur de mes chiottes. Alors que si tu m'as regretté d'avoir pris la ticket, repars dire à tes potes que SINK t'a bien niqué.
Vous resituez, je vous vois sourire. 7 juin 2003. Ouais,
c'est toujours de bons souvenirs. Ouais. Et puis en plus là, vous avez la version live.
Ben oui, qu'on a trouvé.
Ouais, c'est ça. Donc c'est cool. Ça me rappelle des très bons souvenirs. Ouais.
C'était quoi? Dégaine.
C'était Dégaine ton style, un battle qu'on a créé aux Ulysses avec toute ma bande de potes, Los Monzas et.
C'était votre bande.
C'était
Los Monzas. C'est un gang.
Pour certains, c'était c'est ce que je dis dans le livre.
À la fois
une bande,
gang,
un groupe,
bande,
d'amis,
un groupe,
un gang. On savait pas trop. Mais en tout cas, ça faisait beaucoup de musique, ça faisait beaucoup de rap, et il y avait des membres de Los Monzas, dont Fix Nervo, qui a eu l'idée de ce battle chez nous. Et voilà, au départ, on a créé un petit événement comme ça pour nous, pour les jeunes de la ville, et c'est parti très 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 loin dans l'impact que ça a eu.
Ah
voilà,
oui,
donc c'est un très très bon souvenir.
Ça a tout décidé pour vous, en tout cas, de la suite de la carrière.
C'est ce que j'explique aussi dans le livre, et c'est pour ça que le livre commence par ça, parce que il y a des soirs comme ça où on se rend pas compte que au final la vie vient de basculer. Suite à ça, j'ai fait un morceau qui s'appelle L'Assassin, où j'ai récupéré un peu toutes mes rimes, tout ce que j'avais écrit pour cette soirée-là, pour ce battle-là. Et ce morceau a tout explosé, donc indirectement, tout est parti de là.
Vous vous étiez préparé à fond à l'époque, parce que vous aviez déjà échoué à un Dégaine ton style 1.
Ouais.
Donc
j'avais perdu en finale.
Pas deux fois, hein.
Non, pas deux fois.
On vous
l'avez
pas deux fois. Ouais.
Non, mais après, c'est ce que, enfin,
se ça préparer,
aussi,
ça voulait dire quoi pour vous?
Ça veut dire écrire pendant des mois et des mois, se renseigner sur le nom des participants, savoir qui était là, écrire, trouver des dossiers, trouver des choses piquantes à dire, parce que l'essence même du battle, c'est ça en fait, c'est de tacler l'autre, c'est de faire rigoler le public, il y a un petit côté bagarre verbale, et donc fallait savoir qui était là, fallait se préparer, fallait écrire des mois à l'avance, et c'est ce que j'ai fait.
Voilà ce que ça a donné plus tard, donc L'Assassin, le premier titre qui a tout fait exploser.
C'est ça. T'as voulu clasher SNK,
t'es dans la merde. Tu vas kiffer mon pote si t'as du temps et quelques temps à perdre. Alors admets que je suis de spi à la Michael Owen. Ton rap c'est des poèmes, pourquoi tu flammes, t'as le flow à Nolwenn. Pour toi c'est mort parce que je suis riche, toi t'es pauvre. Je suis beau, toi t'es moche, moi je suis un ouche, toi t'es pauvre. T'en veux encore, mais ça va pas, t'es fou. Plus tu dis que t'es dans le rap, mais moi j'y suis, je te vois pas, t'es où. T'as l'air bancal, tu joues le beau gosse, mais t'es un gros tonton. T'es déjà vu quelque part, ce serait pas toi le fils à Robocop. Je te plie au mic et si je te brûle, appelle-moi pyromane. Si tu touches pas une bille, arrête ton rap, va jouer à Bioman.
C'est un titre qui est devenu un classique du rap français. Ça a fondé votre légende, Malsain l'assassin, l'inclassable, c'était vous. Vous aviez quel âge, en fait?
À ce moment-là, j'ai 23 ans. Quand je fais Dégaine ton style, ouais, c'est ça, 2003, donc j'ai 23 piges.
Et le succès va arriver, on va en parler dans quelques instants. Le premier son pour vous, Samir Hamad, qu'on a trouvé, c'était en 2005. Il y avait déjà eu un EP en 2002. On a cherché, on n'a rien trouvé, vous avez tout nettoyé. 2005, le sens de la formule.
Je suis un gentleman, une balade sur mon paragraphe. J'ai subi une grève, j'ai de l'émotion sur mon sparadrap. Le regard froid, j'exporte l'hiver, le hip-hop hiberne. Hamad, moitié homme, moitié extraordinaire. Ici les beaux parleurs ont leur sentinelle. Les rumeurs courent vite, elles font championne aux 110 mètres, man. J'ai le sentiment, c'est facile à dire. On parle notre vie alors qu'il suffit de la vivre. Je suis seul à m'entraider, je décris en toutes lettres les portes de l'enfer.
Vous faites non, non, non de la main, ça veut dire quoi? C'est pas une casserole?
Non, mais c'est vrai que c'est des albums que j'ai fait. En fait, ce que je dis, c'est des albums que j'ai fait parce que j'avais... l'occasion de les faire et bah pas le talent en fait.
Pour vous faire la... Ah oui, vous pensez que vous n'aviez pas le talent encore à l'époque?
Pour moi, non, c'était vraiment...
Qu'est-ce qui vous manquait là?
Oh, bah, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. C'était vraiment les tout débuts et c'était vraiment... J'avais l'occasion... En fait, c'est le genre de choses que je pense on doit faire chez soi et puis ensuite... Mais là, j'avais l'occasion d'enregistrer et c'est vrai que j'avais... Mais ouais.
Vous avez quel âge à ce moment-là?
Ouais, j'étais très jeune. Ouais, la vingtaine. Mais je rappais depuis un an et demi
très
seulement.
Très peu de temps, en effet. Ouais,
j'ai commencé. Après, j'ai même arrêté après celui-là, tu vois.
Pendant des années, puis vous avez repris autour de la trentaine. On va revenir sur un parcours, en effet, avec des gros trous dans les CV. En tout cas, au niveau du rap, pas pour le reste. Je vous ai demandé à tous les deux votre titre déclencheur. Le premier, c'est le vôtre, Cynique. Et c'est américain, plus précisément, c'est new-yorkais. Even when the skies were gray, you would rub me on my back and say maybe it'll be okay. Now that's real to a brother like me, baby. Never ever give my cootie away and keep it tight, alright? And I'ma walk these doors so we can live in a fat ass crib with thousands of kids. One flight, you don't need a ring to be my wife. Just be there for me and I'ma make sure we be living in the effing lap of luxury. I'm realizing that you didn't have to funk with me, but you did. Now I'm going all out, kid, and I got mad love to give. You my nigga. Qui est-ce qu'on écoute? Cynique.
Method Man, Mary J. Blige. Voilà, énorme, énorme classique.
Dans les années 90?
C'est ça, c'est les années 90. Et,
Qu'est-ce que ça déclenche pour vous?
Ah, ce clip, ce morceau a changé ma vie parce que le clip déjà est extraordinaire et à l'époque, bon, il n'y avait pas internet, on ne pouvait pas regarder les clips quand on voulait. Donc il y avait eu une soirée sur M6, je crois, qui s'appelait La Nuit du Wu-Tang. Et ils avaient passé tous les clips jusqu'à 3-4 heures du matin. J'étais resté éveillé, j'étais tombé sur ce clip. Il y a un charisme, il y a une présence, il y a le Mary J au refrain. Il y avait un truc dans ce morceau-là qui m'a tout de suite... Alors j'avais déjà un pied dans le rap parce que j'avais griffonné des petits trucs, etc. Mais c'est vrai que là, ce titre a changé ma vie puisqu'il m'a donné vraiment envie de faire du rap et d'aller beaucoup plus loin.
Votre titre déclencheur, Samir Hamad, c'est celui-ci. Bop your head to this mischievous, so societal, idle chatter never slips off the lips of this writer. Might I be the greater innovator of the rhyme scheme? My style is devising to get your eyes opening. This raggedy Andy gets dandy like a lion in the metal, while the teapots draw steam like a kettle. You hip through the hop, I kick, I trip the life fantastic. Getting into the groove better than a phonographic. The vandal with the vocals making the locals go insane. The regal rhyme speaks sustenance for the brain. Ce titre, manifestement, il le connaît par cœur. Et vous, Cynique, est-ce que vous repérez ce que c'est?
Non.
Pas du tout, parce que vous n'avez pas la même culture. Alors, Samir Hamad, qu'est-ce qu'on écoute?
C'est Opio, c'est dans l'album. C'est un album de Del the Funky Homo Sapiens. C'était l'album. C'était sur le morceau Burn, qui est sorti en 95. Et en fait, c'était. Non, même plus tôt.
92.
92, voilà. Et en fait, il y avait une vidéo de skateboard qui était sortie, qui avait raflé. Qui venait des États-Unis. Et c'était tous les latinos qui s'étaient mis au skateboard. Toute la culture latino qui avait repris le skateboard pour en faire un truc vraiment de ce qu'on appelait le street skate, vraiment de rue, et ça avait chamboulé complètement le milieu du skate qui était un peu surfeur, on va dire, et là c'était vraiment, et ils avaient mis ce son et ça avait chamboulé complètement toute une génération, et ça c'est Opio, et Opio qui fait partie des Soul of Mischief, qui était un groupe de Auckland qui était hyper dur, et en fait ils avaient ramené ce truc où ils appelaient ça le swing. En fait il y avait tout un swing, et en fait ils skataient, les mecs disaient on skate sur la musique quoi, le but du jeu c'est, et c'était tout nouveau, c'était avant les rap, le rap était un peu la Public Enemy, là ça c'était vraiment Hiroshima hein, quand ça arrivait les gens étaient devenus ouf quoi, je m'en rappelle, ça avait complètement il y avait toute une scène après qui arrivait de Los Angeles comme ça, The Nonce etc. Et Del, c'est le cousin de Ice Cube en fait qui avait monté tout ça quoi.
Mais ça c'est votre culture skate en fait.
Ouais ça m'avait. Bah en fait la culture skate que j'ai.
Alors même que vous êtes en Normandie.
Voilà. En fait j'ai découvert par cette vague là des latinos qu'on ramenait le. Avant ça se faisait sur les rampes etc. Et là c'était on prenait un skate et on allait dans la rue et on pouvait faire. Et ça m'avait ouais moi j'ai failli redoubler à cause de ça. Hein. Ça a été une déflagration. C'est-à-dire la culture. La musique qui ramenait, donc le rap, le jazz.
Le jazz aussi, le c'est jazz, ça, pas ouais. Que le rap.
Et le jazz, ce qu'ils appelaient le jazz sale. Un jazz, les Wayne Shorter, les Miles Davis, période Silent Way, tout ce truc-là. Quoi. Et en fait, toute la culture noire américaine et latino, et qu'on se prenait, quoi.
En Normandie. Moi, ça,
en Normandie, ouais. Et tout le monde, on avait été. Et nous.
C'était le western en Normandie pour vous,
c'était,
quoi.
Ouais. On avait recréé. Alors, on venait parce qu'on était des origines immigrées, etc. Donc, et on avait recréé, comme Sergio Leone avait recréé le Far West sans le voir, on s'était complètement recréé une sorte de Los Angeles, San Francisco, New York, en Normandie, tu vois.
Vous aviez changé vos noms, par exemple ?
Non, moi, je m'appelais Sam.
Ah bah oui, bien sûr, c'est beaucoup plus américain que Samir.
Mais bon, non, on jouait pas dessus. Mais c'est vrai que ça nous avait, il y avait le grand, l'Amérique, c'était le grand remplacement. Hein. Quand ça arrivait, ça a été le grand remplacement chez nous.
Quels étaient vos points forts en skate, les figures?
Vous connaissez un petit peu en skate?
Un petit peu.
Ouais, bah c'était en fait on était dans l'arrivée du l'opposite, le switch stance. En fait, on était gaucher, on était droitier, et c'était tout ce qui était les stairs, c'était les grinds, le trottoir, les tout ce qui était flip, etc. C'est l'arrivée du skate très technique en plus, où il y avait les pushers et en fait c'était tout ce qui était très 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 technique. Et c'était ça m'avait impressionné. C'est-à-dire que les mecs qui faisaient de la magie avec une planche de bois, et ça m'en rendait ouf.
Vous avez de cette culture-là, c'est Nick ?
Skate, non. Dans mon quartier, il y en avait. C'est vrai que moi, je n'ai pas spécialement accroché. Après, j'ai tout. Enfin, on avait la danse, le graph, le tag, etc. Mais le skate, moi, perso, je pense que je n'étais pas assez doué pour ça.
Et la danse, vous en avez fait ?
Très, très jeune, un tout petit peu. Ouais, je m'y suis essayé. Mais j'ai vite compris que j'étais meilleur dans l'écriture. Ouais.
On quitte les États-Unis, on quitte la Normandie, direction Les Ulis, où vous arrivez à l'âge de 5 ans, c'est Nick. Tout est raconté dans ce récit autobiographique, une époque formidable. C'est aussi le titre emblématique de 2004, il y a 20 ans. On écoute.
Aux Ulis en 1984. Petit épice, dire que cette ville allait changer ma life. J'en suis marqué, j'ai débarqué un soir d'hiver. Cité de bergère, tout a l'air grand, mais faudra bien s'y faire. J'avais 4 ans, mais les souvenirs me sont restés intacts. Ainsi débute ma vie entre les deux aspects, le terrain vague. De jour en jour, mes nouveaux potes seront mes nouveaux frères. Peut-être qu'on est sur terre, seul l'enfer me sera offert. À cet instant, j'ignore encore que les matons m'attendent. Va dire à ta maman que je suis un bon, que j'ai déjà ma bande. 88, on a 8 piges et tout roule. Avec mes potes, on joue au foot. De la tour février à la tour août. À l'école, ça se passe mal, je me sens mal. Je vis mal, je dors mal, et quand j'en parle, j'ai mon cœur qui s'emballe. Tous les 25 décembre, il faut trouver les mots. L'argent nous fait défaut, et par sa faute, le Père Noël est mort. J'ai peur de rien sauf de mon père et ses putains de colère. De ce putain de collège, des profs et des bulletins scolaires. Ça se dégrade. Mais sûrement, et tard le soir sur le banc, j'entends les grands pousser des hurlements. 2 années passent et les premiers soucis s'amassent très vite. La chance m'évite, alors après la classe on casse les vides. J'ai mis le son, mais quand je rentrais, j'apprenais pas mes leçons. Petit, mais paresseux, trop parisien, mais bon, neige, pas raison. 90, j'ai 10 ans, je commence à faire le mat. Et même à parler mal parce que j'ai pas cette putain de paire de Nike. Je traîne de plus en plus, aime de moins en moins. Hier, quand je suis rentré, j'ai vu des jeunes rouler des joints dans le coin. J'aimais l'été avec mes potes, le soleil sur l'épaule. Du rap et du football, tant que les grands dessoulés sous les halls. J'encaisse les coups quand j'ouvre ma gueule ou j'ai un mot.
hors de la norme, encore un homme caché dans le corps d'un môme. Anéanti car mes parents n'ont jamais su mentir. Lucien m'appelle fils parce que ce fils de pute m'a vu grandir. Doucement je commence à rentrer tard pour admirer les tours. J'ai 12 ans et l'école casse les couilles alors je sèche les cours. Je te l'ai pas dit, à cette époque la rue m'inspire. À 13 ans j'écrivais des petits bouts de phrases qui ne voulaient rien dire. Premier chapitre, les Ulysse pour adresse. Premier couplet de 84 à 93.
Tu dois pouvoir m'expliquer ce que c'est. Une lettre de l'école. Ils me disent que tu y vas pas depuis des mois.
Rappelle-toi, on était jeunes, on n'avait pas la haine, on n'avait pas de label. 10 ans plus tard, certains manquent à l'appel. Un peu plus tard, j'aurai ma ville comme soutien. Soudain, j'écrirai ça pour que tu saches d'où je viens. Pour que tu saches que toute ma life a un goût de flingue. Pour pas que t'oublies après Bergère, rajoute jeune. Pour que tu saches à quel point tout ça me manque. Que tu comprennes mon histoire tout simplement.
L'histoire reprend violemment. Année 1994, à une époque mon pote, où les carreaux éclatent et les keufs claquent. Mauvaise fréquentation entraîne les tentations, désordonnées selon la conseillère de désorientation. L'école c'est mort, je redoute que ma redoute. Dans le fond c'est rien à foutre, parce que plus tard je serai une star du foot. Mes premiers vols, mes premières tapes, mes premières liasses. Mon premier pote qui meurt, mon premier flingue devant ma première tasse. Du haut de ma tour, je vis en hauteur avec ma peine autour. Ce putain de monde est sourd, personne m'entend lorsque j'appelle au secours. 95 avec mes potes, ça va de plus en plus mal. Les nœuds pour la plupart, calcule pas, je m'endors plus en plus tard. J'ai l'air d'un gosse fait pour la tête, et les pistes des tronlits. Les grands m'ont dit fais gaffe parce que les keufs te soulèvent dans ton lit. Effectivement, les keufs te sautent pour te faire déraper. J'avais 16 ans quand j'ai gravé Malsain en GAV. Encore trop jeune pour travailler, plus d'école. Alors on traîne et on déconne, ici c'est le hall qui distribue les rôles. Je m'y rappais, mes potes pas trop, mais j'ai tenté ma chance. C'était la première fois que des bouts de phrases pouvaient quitter ma chambre. Les miens m'écoutent mais ne me suivent pas dans mon délire. Tandis qu'aux amants y'a du flow, déjà très tôt c'est ce que j'entendais dire. C'est avec eux que je pète le mic et toutes les carotides. Que tous les carotides baissent la ville de façon chaotique. À part le son, 2 ans plus tard j'ai grillé toutes mes cartes. Et j'ai soufflé mes 18 bougies au D4. En ressortant, je me suis pas dit que j'avais eu tort, mec. C'est pour le simple fait, mais ça ne te rend ni plus faible ni plus fort. J'ai dû tirer ma première taf un putain de soir d'été. Puis j'ai compris que c'était mal et je commence à regretter. Entre temps, j'ai dû replonger 2-3 fois. La police veut m'avoir, le rappel love de ma voix. Rappelle-toi, on était jeunes, on n'avait pas la haine, on n'avait pas de label. 10 ans plus tard, certains manquent à l'appel. Un peu plus tard, j'aurai ma ville comme soutien. Soudain, j'écrirai ça pour que tu saches d'où je viens. Pour que tu saches que toute ma life a un goût de flingue. Pour pas que t'oublies après Bergère, rajoute jeune. Pour que tu saches à quel point tout ça me manque. Que tu comprennes mon histoire tout simplement. Rappelle-toi, on était jeunes, on n'avait pas la haine, on n'avait pas de label. 10 ans plus tard, certains manquent à l'appel. Un peu plus tard, j'aurai ma ville comme soutien. Soudain, j'écrirai ça pour que tu saches d'où je viens. Pour que tu saches que toute ma life a un goût de flingue. Pour pas que t'oublies après Bergère, rajoute jeune. Pour que tu saches à quel point tout ça me manque. Que tu comprennes mon histoire tout simplement.
C'est un titre qui raconte absolument tout ce qu'il y a dans ce récit autobiographique.
Exactement.
Mais presque tout, parce que c'était un des premiers titres. Il y a eu toute une vie. Après, on va y revenir. Une époque formidable. Donc, le titre de ce récit autobiographique, le titre aussi de ce morceau d'extrait de La main sur le cœur. Premier album en 2005, succès énorme du jour au lendemain. Il sort le 25 janvier. Il est vendu à 250 000 exemplaires depuis. Disque d'or, double disque d'or. Et vous changez littéralement de monde. Quel regard aujourd'hui sur cette année, vous qui l'avez revécu pour écrire ce récit?
En fait, je suis assez partagé en fait quand je repense à cette période-là. C'est à la fois beaucoup de bonheur puisque on récolte les fruits qu'on a semés pendant de longues années avant d'être connu, les années un peu galères, etc.
Pas un peu galères, les années vraiment galères.
Les années complètement galères, et à la fois beaucoup de problèmes aussi puisque le succès attire malheureusement d'autres problèmes qu'on prévoit pas forcément. Donc, mais ça reste quand même une belle période où voilà, j'ai découvert ce qu'était le rap tout en haut, les tournées,
les filles,
tout ce qui va avec, les bons, les mauvais côtés, l'argent, voilà, toutes ces choses-là. C'est un mélange de plein de sentiments. C'est une vie qui change, parfois en bien, parfois en mal, mais on s'est tellement battu pour en arriver là que ça reste malgré tout un bon souvenir.
Quelques ans plus tard, le mal va arriver, c'est-à-dire notamment l'argent, puisque ça va attiser les convoitises, avec même des tentatives de racket, c'est-à-dire dans ce milieu-là, il y a ça aussi qui apparaît.
Bien sûr, mais c'est ce que je dis dans le livre, c'est qu'il faut être bien entouré dans ce milieu-là, et ceux qui durent, ceux qui restent vraiment longtemps, sont des gens qui ont les équipes qui vont avec, et tout ce qu'il faut. Quelqu'un de trop gentil, sans connaissance du milieu parisien, ou du milieu marseillais, ou du milieu du rap en général, quelqu'un de trop gentil qui arrive comme ça, en général, il va pas durer, quoi, parce que c'est un monde très très dur, et c'est ce que je voulais dire
dans
le livre.
On vous a menacé, on menaçait d'intervenir chez vous.
Mais ça, c'est, enfin, les gens ne le savent pas, mais c'est ce qui arrive à quasiment tous ceux qui réussissent. Donc, c'est ce que je dis encore une fois aussi dans le livre, c'est que c'est presque un passage obligatoire et que c'est une manière de vous poser la question de savoir s'il y a du monde derrière vous ou pas. En l'occurrence, moi, j'avais cette chance d'être plutôt bien entouré, donc ça n'a pas duré longtemps. Mais c'est un passage obligatoire. Ça va avec le succès, ça va avec la réussite. Et voilà, c'est pour ça que je dis que ce monde n'est pas toujours drôle et rose.
Samir Ahmad, ça va? Rien ne s'est passé de ce côté-là? Pas de menace,
non,
pas de raquette, pour l'instant.
Parce qu'il n'y a pas les...
Mais quand tu auras le gros succès, vous allez voir.
Après, oui, je suis d'accord avec Cynique, mais après, c'était, je pense, aussi une époque qui était un peu dure aussi, comme ça.
Mais il y a eu des affaires de raquette encore,
pas si longtemps.
Il y a toujours
des affaires de raquette, pas forcément même dans le Perrin.
Il suffit de réussir
très fortement. Et moi, même ailleurs, hein, j'imagine. Mais non, je pense que...
Pas encore.
Dieu non, merci. Non.
2005, donc, le premier album. 2006, vous dégainez le second. Sans froid, il y aura l'Olympia et un tube énorme, Autodestruction.
Je suis maton, j'enferme les hommes sans regret. Je prends du plaisir quand je me rappelle qu'on me tapait à la récré. Je suis fugueur parce que mon cœur n'est plus qu'une cicatrice. Parce que les juges me veulent en psychiatrie. Je suis un clown dans un piteux état. Je m'oblige à être drôle pour oublier que ma vie ne l'est pas. Je suis un fou qui a perdu la boule. Puisqu'on m'a traîné dans la boue, je viens dégainer dans la foule. Parce qu'on perd tous la raison. On rêve de brûler les saisons.
Là encore, un tube énorme. Est-ce que vous aviez la pression pour ce deuxième album? Vous aviez signé le premier, énorme succès inattendu. Du jour au lendemain, on se dit, est-ce que ça va continuer?
On se pose la question, mais en vrai, on est un peu insouciant à cet âge-là. Moi, là, à ce moment-là, j'ai 26 ans. Et je me suis battu pour en arriver là. Le premier album a marché. Le deuxième, on l'a quasiment enchaîné tout de suite. J'ai écrit certains morceaux de Sang Froid. J'étais en tournée pour La Main sur le Cœur. Donc on a vraiment, vraiment enchaîné. Et ce qui fait ma force à l'époque, c'est que je me pose pas de questions, en fait, justement. J'y réfléchis pas à ces choses-là. Je fais ma musique. Et
l'Olympia, qu'est-ce que ça a pu représenter à ce moment-là?
C'est énorme pour moi, mais surtout pour mes parents, en fait,
oui.
qui étaient là, puisque eux, ils ont connu Brel, Piaf, Brassens, enfin... Tous ces grands artistes-là. Et forcément, ouais, ça, enfin, pour eux, ça leur parle d'être là, d'être présent, de voir leur fils, les fameuses lettres rouges, etc. Je pense que ça avait plus d'impact pour eux que pour moi. Ça signifiait plus de choses pour eux que pour moi.
Qu'est-ce qu'on écoutait chez vous, d'ailleurs, comme musique?
Moi, il y avait de la variété française, il y avait tout. Il y avait, franchement, c'était très, très éclectique. J'ai un père qui est né en 45, donc qui avait, dans les années 60, la vingtaine d'années. Donc voilà, tous ces classiques de son époque à lui, voilà, ça pouvait écouter du Michael Jackson, ça pouvait écouter de la vieille musique étrangère, ça pouvait écouter de la variété française, plein de choses.
2006, le deuxième album, 2007, le troisième album, le rythme est fou quand même, et là, avec une stratégie, notamment avec ce titre, je réalise...
J'ai compris que faire la paix c'est le cauchemar du marchand d'armes. Je réalise la nuit des courses-poursuites dans la ville. Mais n'ayez crainte puisque la mort n'est que la suite de la vie. Je prendrai tout ce qu'il y a à prendre, les joies et les larmes.
In this life,
dans cette vie,
I'll join everyone. When I die.
James Blunt, en feat, en duo, avec vous à l'époque.
Ouais.
T'es pour brouiller les cartes? Pour
ouvrir. Ça a ouvert un panel encore différent, essayer de se diversifier, d'aller toucher d'autres publics. Et
ça a été bien compris? Vous êtes passé pour un traître?
Non, sincèrement, non, le morceau est bien passé. C'était qui tout double, hein. Ça pouvait casser tout ce qu'on avait fait auparavant.
Bah oui,
c'était un gros risque artistique. Mais je pense que le morceau est cohérent et c'est en fait ce qui fait quand vous partez dans des démarches comme ça, ce qui va faire foi, c'est vraiment le morceau. Donc si on sent que c'est un truc fait que pour les radios, qui trahit un peu tout ce que vous avez fait auparavant, ça va être compliqué. Là, le morceau, lui, il avait quand même un délire assez triste, assez mélancolique, donc ça collait aussi avec mon univers.
À l'image que vous aviez, oui.
Et ça a surpris les gens, mais je pense que le morceau est quand même assez cohérent et le résultat, en tout cas à l'époque, a plu et ne nous a pas séparés des fans qui étaient là depuis la première heure.
Ça a été beaucoup plus difficile, on va en parler, avec le quatrième album. Et retour en arrière, car avant Cynique, il y a eu Thomas Idir, c'était vous. Enfance difficile, tête brûlée, scolarité chaotique. Le Cade déjà en CM1, avec des copains dans les combines, Romaric, Willis. On va raconter tout ça, c'est assez hallucinant. L'arrivée dans un collège de dingue, il y avait même un chien, un malinois dans la cour.
Ah, c'est ça, c'est ça.
Mais c'est dingue.
Un chien que tous les Ulyssiens connaissent qui s'appelait Buck. et qui mordait absolument tout le monde. Et dès qu'il y avait Buck, en fait, c'était la panique générale. Et c'est vrai que ce chien, des fois, rentrait dans la cour du collège et tu voyais tout le monde qui montait sur les grillages. Donc, on a vécu des choses, on s'en rendait pas compte parce que c'était normal.
Hallucinant, mais les pages consacrées à ce collège sont vraiment délirantes. Non,
c'est complètement fou, c'était complètement fou. C'était les collèges des années 90. Aujourd'hui, c'est bien différent et c'est tant mieux. Mais c'est vrai, quoi, il se passait des choses dans ce collège qui étaient tout à fait anormales.
Orientation CAP cuisine, le racisme professionnel, on vous donne du mouloud.
Ouais.
Racisme ordinaire de la part de la femme du patron.
Ouais, ouais. Sur le coup, je m'en rends pas spécialement compte, mais c'est vrai que après, en percutant, ouais, c'est par rapport à mon nom de famille, par rapport à mes origines. Et donc, c'est du racisme, tout simplement.
Vous claquez la porte avec une certaine violence. Mmh. En fait, à 15 ans, vous êtes livré à vous-même. Vous dormez dans votre voiture à 20 ans. Vous parlez sans détour de vos années de délinquance. Mmh. Le premier vol de sac à main brutal à 13 ans. Les vols de voiture, le deal, le resell, homejacking. Et puis, un changement, fin septembre 96, à 17 ans, la musique arrive. Mmh. Elle arrive de quelle façon pour vous ?
J'ai un pote qui m'appelle, en fait, et qui me dit qu'il a un autre pote que je connaissais de nom, qui vient d'acheter du matos, en l'occurrence une platine, un micro, enfin vraiment l'attirail de l'ingénieur du son très très low cost, mais de l'époque, et qui me dit qu'il a envie de se faire la main, qu'il a envie d'apprendre un peu à enregistrer, à structurer des morceaux. Il savait que moi j'écrivais un petit peu, que j'avais des petits
bouts
de phrases.
Depuis l'âge de 12-13 ans. Hein.
C'est ça. Mais j'avais jamais rien sorti, c'était juste écrire pour le plaisir en fait. J'avais des petits bouts de phrases comme ça, des petits textes qui traînaient. Et il m'appelle, il me dit, j'ai un pote, machin, il veut commencer à enregistrer, est-ce que t'es chaud pour aller faire 2-3 sons chez lui? Et en fait, tout est parti de là. On rappait sur des instrus de Ideal J, d'autres groupes, du Wu-Tang, tout ça, on trouvait des phases B comme ça. Et c'est comme ça que, à 16 ans, j'ai commencé à faire mes premières maquettes, mes premiers morceaux, et après, voilà, on lâche pas.
12-13 ans, les premiers textes. Le premier texte, je crois qu'il s'appelle Automatique. Enfin, c'est ce que
c'est
j'ai
ça.
Vu dans le texte.
Ouais, c'est ça.
Vous vous souvenez de quoi ça parlait? Vous l'avez conservé?
C'était un morceau. Alors, je me souviens plus du titre, mais je sais qu'il parlait déjà de bavure policière, etc. Donc, c'était très... c'était pas super original dans le thème. Le morceau était mal enregistré, mal structuré. Mais c'était un premier morceau. Donc, en vrai, il avait tous les défauts de la jeunesse.
Et c'était du vécu. Quand est-ce qu'arrive ce pseudo cynique?
Dès le départ, en fait. C'est ce même pote, Biggs, qui m'avait appelé comme ça. J'avais pas spécialement réfléchi à un pseudo, en fait. Et en écoutant mes tout premiers couplets, c'est lui qui m'avait dit la toute première fois, ouais, c'est vachement cynique. Et j'avais kiffé. Et puis c'était un peu la mode aussi des noms en I, qui avait eu Arsenic, Ménélique, tous ces noms-là qui finissaient par IK. Et voilà, c'est parti de là, en fait, tout simplement. On m'a appelé comme ça, je l'ai pas choisi.
Faudrait qu'on écoute un titre sur lequel vous revenez, et de façon très frontale, là encore, dans ce texte.
Puis ta rime comme une attaque dans les rappés, j'ai lu l'article. Au fil du temps t'as régressé, tu rappais mieux dans lunatique. À cette époque c'était le top, t'aurais pu casser la baraque. Maintenant c'est plus le crime qui pèse, c'est la Starac. T'en as eu marre de voir ma gueule un peu partout. Eh, hey, si t'es métis, t'es forcément un peu partout. Désolé mais la relève te fait quitter ton poste. Demande à l'assassin qui est ton boss. Alors comme ça tu veux me clash avec ton débardeur. T'as remplacé Ali pour faire un groupe avec Tony Parker. Dans tes chansons tu joues les fous, tu fais parler les guns. Ici on n'y croit pas car un voyou n'appelle jamais les keufs. Après ce clash tu n'auras plus qu'à faire une
suite. Titre super bien écrit, vous voyez de quoi il s'agit ça,
oui
ça
oui je me rappelle de cette histoire.
C'était le clash avec Booba.
C'est ça.
Une réponse.
C'est ça.
À l'envoyeur.
C'est ça exactement, une réponse. Je suis pas quelqu'un qui va attaquer les gens comme ça. Pour être honnête, c'est pas un morceau que j'aime bien parce que déjà c'est pas celui que je préfère d'un point de vue artistique et il correspond un peu à une période qui était un peu relou. C'est pas la meilleure période de ma carrière, mais je pense qu'elle était nécessaire. Des fois dans la vie c'est comme ça, y a pas le choix.
De pas forcément s'écraser quand on vous attaque.
C'est comme dans une cour de récré ou comme au bureau pour certains ou quoi. Quand on vous agresse, vous répondez, c'est comme ça.
Alors on a connu les hauts, maintenant on va connaître les bas. Ça commence avec le quatrième album, Ballon d'Or. On est en 2009, vous changez de maison de disque. Ouais. Pour quelle raison? Vous étiez un des plus gros vendeurs.
Parce que j'étais en fin de contrat en fait, et qu'à l'époque on a renégocié. Et on savait qu'on avait toutes les cartes en main pour avoir encore d'autres moyens supplémentaires, etc. On commençait à s'essouffler un petit peu avec Warner. Et il y a Universal du coup qui est arrivé avec d'autres idées, encore plus de moyens, etc. Donc on s'est dit on va franchir un cap. Et en tout cas, sur le coup, on pensait que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire.
Mais ce quatrième album, vous étiez complètement crevé à l'époque.
J'étais rincé déjà artistiquement, puisqu'on venait de faire 4 albums en 4 ans, avec tout ce que ça impliquait, les tournées, etc. Donc physiquement, j'étais fatigué. Artistiquement, je sentais que j'avais besoin de faire un break. C'est l'année où ma première fille est née, donc j'avais vraiment la tête ailleurs. Et C'est un album que j'ai fait parce que je devais le faire, mais si ça ne tenait qu'à moi, je pense très honnêtement que j'aurais attendu un an ou deux et que je me serais laissé beaucoup plus de temps. Mais à l'époque, j'étais dans une machine comme ça où il fallait enchaîner et voilà, on a suivi le rythme.
Et ça a été l'échec en fait.
Semi-échec, relatif, parce que c'est relatif. Quand même un album qui est disque d'or, faut le préciser.
Mais par rapport aux espérances.
Mais par rapport à ce qu'on avait mis, on avait mis la barre très très haute hein, sur les autres albums. On faisait des premières semaines à 30, 40 000. Et là, c'est vrai qu'on fait un petit peu moins de 10 000 la première semaine. Donc le disque d'or a été fait à l'usure. Et tous ceux qui nous attendaient au tournant nous sont tombés dessus, ce qui était la règle du jeu, hein, je le savais. Mais c'est vrai qu'à partir de là, en tout cas, c'est une autre carrière qui commence.
Justement, à quel moment vous avez eu conscience que vous n'alliez pas véritablement vieillir dans le rap ? Ou que ça serait difficile de vieillir dans le rap ?
C'est-à-dire de continuer, vous voulez dire ?
Ouais, de continuer et d'être plus âgé, d'arriver en concert devant des gens qui sont éternellement plus jeunes que vous.
Moi, j'avais conscience de ça, en fait, dès le départ. J'avais conscience de ça, je savais que c'était très compliqué de traverser les époques comme ça. Et malgré tout, aujourd'hui, j'ai 40 ans passés, je suis en tournée, là, par exemple, l'été prochain. Et il y a toujours un public, alors qu'a grandi avec moi, certes, ils sont moins nombreux et moins visibles, et on les entend moins qu'il y a quelques années, mais à ma grande surprise, il y a toujours beaucoup, beaucoup de gens qui suivent et qui viennent en tournée, qui viennent en concert, qui remplissent les salles. Donc en fait, le public a grandi et vieilli en même temps que moi, mais dans l'esprit des gens, enfin, faut être au top en permanence. Et c'est là qu'on dit, voilà, il a réussi à traverser. Moi, j'ai l'impression que j'ai réussi à traverser les époques, puisque je suis encore là aujourd'hui, que je fais encore mes tournées, et que j'ai encore un public qui me suit, donc... Moi, en tout cas, ça me suffit largement.
Mais à un moment donné, vous avez pensé changer de carrière. Et d'ailleurs, vous avez changé de carrière. Vous avez ouvert des salons de tatouage.
Ouais. Mais c'est pas vraiment changer de carrière. C'est penser à la reconversion et puis se dire que le rap, ça dure pas non plus une vie entière. Et quoi qu'il arrive, je suis un touche-à-tout. Moi, je voulais anticiper la suite. Je voulais pas me dire du jour au lendemain, bah, ça y est, j'ai arrêté la musique. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Encore, en étant encore dans la musique, en ayant un label de musique, en ayant créé beaucoup de choses, je voulais déjà m'intéresser à d'autres choses. Et aujourd'hui, je suis même dans des business que les gens ne peuvent absolument pas imaginer parce que je suis un touche-à-tout, des trucs qui n'ont rien à voir avec...
Ni le tatouage, ni la musique. C'est
ouais,
quoi
ni le tatouage, ni la musique, dans d'autres choses, de la location de voiture, dans du BTP, dans plein de...
Ah, vous êtes un entrepreneur, quoi.
Ben ouais, c'est ce que j'essaye de faire. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours prévoir la suite. Il ne faut pas attendre que ça s'arrête et se dire, putain, maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Moi, j'ai toujours eu ce réflexe d'essayer d'anticiper les choses avant qu'elles ne me tombent dessus.
Alors que pour vous, c'est tout le contraire, en fait. Vous avez quitté votre métier de prof pour être 100% dans la musique.
Ouais, j'ai fait tout à l'envers, en
tout
fait.
Tout à l'envers.
J'ai acheté d'abord, ouais, voilà.
Vous avez d'abord construit votre vie.
J'ai fait les enfants, j'ai sécurisé, mis un toit partout.
Et à partir de 40
acheté
ans.
Acheté ce qu'il fallait.
Et à 30 ans.
Et j'ai dit, ben, maintenant que. J'ai le droit de me tromper, quoi. Vu que tout le monde est à l'abri, tout le monde.
Ça y est, tout le monde est casé. Et maintenant,
j'ai le droit de me tromper. Et j'ai commencé. En fait, j'ai commencé quand tout le monde a arrêté, quoi.
On va revenir sur ce parcours dans quelques instants. On a ouvert avec Ashjohn Crack et Mairo. On poursuit avec un autre duo, Arlo Parks, anglo-nigériane, et Lucen de Yakuza, belgo-congolaise, s'unissent sur ce I'm Sorry.
Je ne vois plus mon reflet. truc feutré et tout, c'est pas mal. Le son est bien, là.
Mais oui, le son est bon.
Laurent Goumard.
Cynic et Samir Hamad sont les invités côté club ce soir. Samir Hamad avec un nouvel album, La vie est bien faite, c'est le titre. Un album qui signe 22 ans de discographie, même si au départ, c'était plutôt des tâtonnements, mais beaucoup plus de musique. Quelle place a la musique aujourd'hui donc dans votre vie, vous qui avez 46 ans? C'est devenu le plan A?
Il y a plusieurs plans A, mais pour faire de la musique, faut avoir plusieurs autres passions et plusieurs centres d'intérêt. Sinon, faire de la musique avec de la musique et on tourne vite en rond. Donc, je pense qu'il faut. C'est un des plans. Enfin, c'est la façon de concrétiser, on va dire.
Tout ce que vous avez vécu auparavant.
Une culture, une histoire. C'est
vous
ça,
étiez
en fait.
Prof de quoi?
J'ai été prof de musique en collège. Vacataire contractuel, ouais, pendant 4-5 ans, voilà, ouais. En remplacement, etc. Et après, je suis passé en primaire. En primaire, aide instituteur, on va dire.
Et maintenant, tout s'est arrêté. Tout le monde est casé. Vous avez construit votre vie. Et on repasse à la musique.
Voilà, c'est ça, en fait.
Samir Hamad, un parcours d'exilé, puisque vous avez fui l'Irak avec votre père, pour l'Algérie d'abord, pour la France aussi. À quel âge vous êtes parti de l'Irak?
C'est compliqué, en fait. C'était sous mon père, c'était à l'époque de l'arrivée de Saddam.
D'accord.
Donc après, on est parti en Algérie.
Il a fui pour des raisons politiques?
Des raisons purement politiques. En fait, on était interdit, quoi. Pour chasser, c'était ça, on mourait, quoi. Et donc, lui, il est parti. On est parti en Algérie, à Constantine, où il était prof de Fosha, d'arabe littéraire, parce qu'en fait, à l'époque, l'Algérie voulait réarabiser. L'Algérie est devenue arabe en 62-63, si vous voulez. Et donc, on a réarabisé. Donc, lui, il est arrivé bien après, hein, 10-15 ans après. Mais c'était à l'époque de la réarabisation de l'Algérie et plus pleinement du Maghreb, donc avec beaucoup de gens du Mashrek, Syrie, Irak, Jordanie, etc. Donc, nous, on est arrivé là-bas. Et puis après, on est parti. C'était le panarabisme. C'était tout le panarabisme avec Boumedjen qui voulait. Où l'Algérie était une terre de révolutionnaires. Hein.
Exactement. Votre père l'a rencontré d'ailleurs.
Voilà,
il y a une photo dans l'album
avec tous les révolutionnaires de l'époque. Donc mon père était vraiment dans ce truc de révolutionnaire pur qu'il y avait en Algérie, les Black Panthers, etc. Et bon, forcément, ça, on a vu ce que ça a donné, ça a pas fonctionné. Donc 80, etc. Bon,
vous arrivez en France en 85.
On arrive en France.
Quel rôle a eu votre père dans votre construction musicale, puisqu'on l'entend dans un des titres, enfin dans un prélude sur cet album?
Aucune.
Rien.
Mon père, non. Mon père, c'était, parce qu'il est parti en 97, ouais. Il nous a quittés en 97, et c'est pas les Irakiens, les gens du Mashrek, de l'Orient. C'est pas la même immigration que les gens du Maghreb, souvent, très souvent. Maghreb, c'est souvent économique, des gens qui viennent économiquement. Et Mashrek, c'est souvent des gens qui viennent, qui sont arrachés. Il n'y a pas de retour possible, il n'y a pas même de rêve de retour possible. C'est-à-dire qu'on est complètement déraciné. Tu n'es plus irakien, tu ne seras plus jamais irakien. Même mon père me disait, en fait, Tu vas devenir, même la nuit, parce qu'on dit ouais je suis arabe et tout, et mon père me disait non, si la nuit, on t'es exilé, si la nuit tu rêves en français, c'est que t'es français, arrête.
Et votre père rêvait en français?
Et
votre père rêvait en français?
C'était compliqué. Il avait un très bon français, c'était quelqu'un qui était, il a très vite appris, qui avait un bon français, on peut l'entendre, je trouve que c'est pas mal.
Ah ouais?
C'est pas mal, c'est une blessure, et qu'on garde aussi, forcément.
À partir de quand vous avez compris que vous alliez parler de ses origines dans vos albums? Ça l'a pas fait tout de suite, en
non,
fait.
Non, non, non. Déjà parce qu'on est peu. En Irak, les Irakiens, la plupart du temps, sont souvent en Angleterre. Donc on est très peu d'Irakiens en France. Et c'était un truc où c'était compliqué, en fait, même à se positionner. L'histoire, c'est pas évident. Raconter le pourquoi du comment. Donc c'était quelque chose. Et même, qui intéressait qui? Au final.
Alors pourquoi aujourd'hui l'avoir intégré?
Parce que je pense que ça fait partie de moi et c'est une histoire qui peut être plus universelle déjà. En fait, c'est aussi la digestion et le rendu qui peut être plus facilement transposable pour plein, même pas forcément pour des gens d'origine étrangère, même des gens socialement différents, des gens provinciaux différemment. En fait, c'était ça le matériel, quoi. Le fait de se reconnaître, d'être une minorité d'une minorité. On est tous une minorité au final.
On va rentrer dans cet album avec Vivarium, extrait de La vie est bien faite. Peut-être quelque chose, un commentaire pour présenter ce titre, Vivarium, à Scénic.
Vivarium, bah, c'est le premier single, c'est une prod de Skiz, qui est un des beatmakers. C'était sur, moi, c'est sur une rythmique qui se fait un peu actuellement, un peu drill, etc. Drill, ouais. Voilà. Et bah c'est le rap que j'aime, le rap que je pratique. Et
même si j'ai à la drill alors du coup.
Moi j'aime bien la drill, j'aime bien. Bah j'aime le rap, vraiment le rap, j'aime le rap ça du boom bap comme on a pu entendre d'Opio. En fait, le style je m'en fous, c'est vraiment c'est la perf qui m'intéresse, le même la langue je m'en fous en fait, même le discours je m'en fous, c'est vraiment tout ce qui est c'est la perf, la beauté du geste, c'est ça que j'aime moi. Après, je dis pas que je le fais bien. En tant qu'auditeur, c'est ce que j'aime.
Dans le dictaphone, j'écris l'album. Cree One Love couvre le bruit d'un gun. J'ouvre le vivarium, c'est le récit d'un homme signé Basquiat, Andy Warhol. T'as senti l'arôme, c'est plein de wild style dans le vivarium. La carrière est athlétique, un peu pudique, je me cache derrière la technique. J'suis le best en public comme chaque artiste, comme texte de Jada Kiss, comme l'ex de Jada Smith. Rapline, cachin, on regarde la 6. Mes gamins, on se croit gardien de la galaxie. Je vois que ça danse, dès que ça me pense à chesse. Je suis lucide et je brille fort, un gris sur les dents de sagesse. Je serai présent après la verse, on fera avec. Même qu'on fera l'affaire, la pop me regarde travers et le rap m'attrape la veste. Bien vivant, loin des âmes en peine. Je garde en tête que je rappe dans la quarantaine. On rendra l'antenne quand on sera centenaire. Faut que ça paye qu'on sorte de leur parenthèse. Sort du vivarium en place sur l'avant-scène. Zik ornum, récompense en zirconium. Dialogue en rime dans le dictaphone, j'écris l'album. Cree One Love couvre le bruit d'un gun. J'ouvre le vivarium, c'est le récit d'un homme signé Basquiat, Andy Warhol. T'as senti l'arôme, c'est plein de wild style dans le vivarium. Ah. Même solo, je veux donner classique. Et sur mon polo, tu connais la suite. Bras en l'air, tu reconnais le sommore. Main en l'air, tu reconnais l'insigne. Je me fonds dans le décor dans une doudoune grise. Bien sûr, ride vaudou sur la to-do list. Dialogue en rime dans le dictaphone, j'écris l'album. Cree One Love couvre le bruit d'un gun. J'ouvre le vivarium, c'est le récit d'un homme signé Basquiat, Andy Warhol. T'as senti l'arôme, c'est plein de wild style dans le vivarium. Je me confie dans une allée vide. Ces confis me doivent des années et des années de vie. La vie reprend son cours quand le shérif dort. La vie d'un homme de fer, la mort d'un Félix Fort. Vieil arôme pour nouvel album. Fuck être un bonhomme, fallait que je devienne un homme.
Vivarium, excellent morceau, extrait de La vie est bien faite, signé Samir Abad. Je vous ai vu très attentif, Scénic.
Ouais, j'écoute parce que c'est très multisyllabique. Ce que j'aime beaucoup.
Ah,
oui.
Vous avez tout compris.
Dans le rap.
Ouais. Multisyllabique.
Ouais.
C'est la façon dont vous allez travailler.
Bon, oui, le fait de faire
des rimes truc très alambiquées qui reviennent comme des assonances, des allitérations.
Des assonances, ouais. Ouais. Après, oui. Après, c'est pas. Enfin, c'est de la technique, quoi. C'est de la matière, en fait. C'est comment? J'arrive pas à expliquer.
Il suffit de chercher pour ne pas le trouver.
Non, ouais, je l'ai.
Vous allez l'avoir. Le rap,
c'est la beauté. Ouais, c'est ça.
C'est la beauté du geste. Vous l'avez dit tout à l'heure.
Ouais, c'est ça.
Je suis venu à cette musique, le rap, car je détestais la variété et le pop rock français. Je haïssais tout ça, alors que j'aime le pop rock anglais des années 70. J'ai aimé le rap en France, justement parce que ce n'était pas de la variété que je hais.
Ouais, clairement. Bah, au début, ça, dans les années, ouais, 80, je déteste. Mais je crois qu'encore, je me soigne, hein, mais c'est... en fait, quand je suis la musique française, tout ce qui était variété, je comprenais absolument pas du tout. Je croyais que c'était, enfin, quand j'étais jeune, c'est un truc qui je. Et quand le rap est arrivé, je me suis dit, il y a un truc, ça bouge, il y a un truc, bon, surtout chez les quinriers et tout. Et puis après, mais ouais, c'est vrai que c'était. C'est pour ça que même maintenant, en fait, quand j'écoute du rap, Moi, j'aime le rap parce que c'est du rap. Dès qu'il se variétise un petit peu...
Oui, mais la variété contamine tout, vous le savez.
C'est ce que je dis tout le temps. En fait, il s'infiltre dans tout.
Ah ben là, c'est la variété qui s'infiltre dans le rap.
Tout le temps.
Et pas le contraire. On dit tout le temps que c'est le contraire, mais non.
Non, non, non. C'est la variété qui gagne toujours en France. Le rap n'a pas gagné, là. Le rap, c'est la variété. Et la variété gagne toujours. Jean-Jacques Goldman, c'est considéré comme du rock. Mais c'est pas... C'est juste la variété qui est saupoudrée de rock. C'est la variété. En France, c'est pas de la pop. Il y a pas de pop en France. Il y a de la variété. Et quand on dit le rap est varié, c'est de la variété.
Dès qu'un
style devient varié, c'est de la variété. Et moi, c'est pas. Je respecte, mais la variété, c'est pas un truc que jamais été friand de ce style de musique. Voilà, c'est ça.
Je disais aussi que vous étiez un acharné de travail avec des contraintes tous les jours, écrire entre 4 et 8 mesures.
Ouais, j'essaye d'écrire tout le temps. Enfin, c'est pas de l'écrire, c'est... en fait, j'écris pas vraiment...
Vous n'écrivez pas, c'est ça.
Si, ouais. J'écris, en fait, mais j'écris pour me rappeler.
De ce que vous avez rappelé.
Voilà, en fait, il faut que ça soit tout le temps... faut que ça soit de l'oralité, il faut jamais que ça soit de l'écriture. C'est de l'oralité, sur un son, il faut que ça soit musical. Et après, moi, j'ai pas de mémoire, donc je suis obligé de l'écrire ou de l'enregistrer pour avoir... mais je peux pas le retenir comme Biggie ou comme Jay-Z. Moi, je suis obligé... Mais par contre, c'est pas j'ai une feuille blanche, j'écris et je rappe. C'est je rappe. Et après, je l'écris pour m'en souvenir.
Ça veut dire qu'il y a d'abord l'instru. Vous écoutez l'instru.
Voilà, c'est ça.
Vous
l'instru ou des fois, Skiz, il m'envoie juste ce qu'on appelle le swing, c'est la rythmique. La rythmique avec les contres pour trouver le truc. Et voilà, après, je trouve le bagou. Des fois, je trouve même. Il y a un pote, Némir, qui fait beaucoup ça. On trouve même presque des fois des onomatopées et après, on va presque broder autour avec des sons, quoi.
C'est comme ça que vous travaillez aussi?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Hein.
Je
vous voyais en train de le regarder comme un ovni.
Non, mais j'aime bien savoir la méthode de travail des gens. C'est toujours très très intéressant.
Vous,
et
vous
très
travaillez comment alors?
Non, moi à l'époque, soit je partais d'une instru et je choisissais tout de suite mon thème. En fait, c'est pareil. C'est pas quelque chose de très précis. Il y a plusieurs manières de faire. J'avais soit déjà des lyrics qui me venaient en tête que j'avais écrit sans instru, soit j'avais une idée de thème que je voulais évoquer, soit ça partait de la prod directement, donc je recevais des sons et ça m'inspirait le thème et les lyrics et les morceaux, etc. Et voilà, on peut écrire des morceaux entiers en 20 minutes et on peut en écrire d'autres en 2 mois. Donc j'avais pas de logique. Mais moi, par contre, j'étais vraiment sur la feuille. Il me fallait ma feuille et c'était vraiment cette méthode que j'avais.
Dans le titre Vivarium, on entend « Je garde en tête que je rappe dans la quarantaine ». On rendra l'antenne quand on sera centenaire. Vous ne vous posez pas les mêmes questions que j'ai posées tout à l'heure à Cynic sur vieillir dans le rap.
J'ai pas la même carrière. En fait, il a, parce que moi, si je commence à 30, 40 ans, lui, il a fait 25. Je termine à 65, 80. C'est ça que je veux dire, en fait. Je pense aussi, on ne tient pas non plus 60 ans à faire la même chose. Donc, s'il a commencé à 17 ans, c'est déjà énorme. 17, 45 ans, c'est déjà énorme. Moi, si j'arrive à faire, même si je commence à 30, 40 ans, à faire autant, c'est ça, en fait. J'ai commencé tard, donc j'ai un peu de...
Justement, quand on commence tard, on raconte quoi?
Ouais, vous écoutez La Vie est bien faite, tout est dedans.
Hein. Ouais, j'ai bien écouté, oui.
On raconte toute la matière qu'on a emmagasinée. On raconte une façon aussi d'être de plus en plus concis, je pense. De moins en moins de mots, avec plus en plus de sens. Surtout maintenant, avec les formes du rap qu'on a actuellement. Où les rythmiques sont plus les mêmes, c'est plus aussi bavard, en fait. C'est plus aussi bavard, donc il y a une façon d'écrire qui est aussi très différente. En fait, on est obligé d'intégrer des formes d'images. En fait, ça devient de plus en plus de l'image.
Abstrait.
De l'image qu'on a en moi. Il y a des articles qui sautent, il y a des le, la, a qui sautent pour pouvoir rythmiquement être dans un swing. Et donc, c'est ludique, en fait, c'est un jeu. C'est un jeu. Et si tant qu'on aime jouer, jouons.
On écoute ce que ça donne.
J'aime bouger de ville, accueilli à regret, comme version reggae de Rouget de Lille. Entouré de vide, ciel sans étoiles, le hip-hop à 50 piges, et je suis censé le croire. À la merci, le rang de tir, je reste équerre, portefeuille précaire, et même si on porte l'œil, me revoici, mais je t'équerre comme le gars en fauteuil dans Degrassi. À la 2-4-6, skills magistraux, de la magie en kilo, c'est ce que je peux faire. Élargis le chrome, de la plage pour les frères, giflez version FR, des lois de Jim Crow.
Et bien voilà, côté club, fin de partie, c'est le moment des adieux. Merci Samir Hamad.
Merci à toi.
L'album, c'est La vie est bien faite. Cynic, le livre, c'est Une époque formidable, apparu aux éditions Face Cachée. Merci
c'est
à
ça.
Vous.
C'est ça, merci à vous.
Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain. Eh bien oui, on change de rythme demain. Ce n'est pas de la variété, c'est du rock, monsieur Samir Hamad.
Le rock est très bon.
Exactement, le rock avec les gars de All In Joe's. Ils seront en live avec trois titres. À leur côté, le président de la fondation Dina Vierny Musée Mayol à Paris, qui signe son premier album rock à 75 ans, Olivier Lorquin, sera notre invité. Côté club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles. Stéphane Le Guenec à la réalisation. À la technique ce soir, Clément Vuillet. Programmation, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic. Au playlist, Valentine Chedebois. Après le journal, vous retrouverez à nouveau Affaires Sensibles. Ce soir, Montredon 76, la guerre du vin. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Côté club, on ferme. Bonne fin de soirée. Alors à demain.
La musique.
C'est génial.
Oui.
Côté.
Génialissimement génial, j'ai entendu ça.
Club.
Bye. Bye.